With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, nous sommes en mars 2021, c'est l'épisode numéro 398. Et aujourd'hui, on a un programme de folie, la conférence Intel qui m'a fait vibrer mon cœur de geek. J'aurais pas pensé, mais oui, Intel is maybe back. On a aussi Amazon qui troll sur Twitter avec des histoires de pipi dans des bouteilles. On n'est même pas en train putacliquer. C'est vraiment ce qui s'est passé. C'était assez horrifiant. On a Clubhouse partout, on a plein d'histoires à vous raconter. Et pour m'accompagner dans cette aventure formidable, j'ai d'un côté Jérôme Kainborg. Comment ça va, Jérôme ?
Eh bien, très bien, bonjour à tous, ravi d'être là.
Je vois que tu as l'énergie de mon lancement d'émission où je parle à 200 à l'heure pour réveiller les gens. C'est très, très bien. Ça dépeint un peu sur toi, c'est comme ça qu'on dit. Et ce qui dépeint également sur Corben, c'est l'énergie d'une matinée déjà passée sur Twitch. Comment ça va, Corben ?
Bah ça va, écoute, ça roule. J'arrive pas à avoir votre flow de speakerine d'internet, mais bon, je vais essayer quand même de me mettre à niveau, cher Patrick.
Magnifique, très bien, je vois que t'es dans l'esprit. Écoute, tu sais qu'on n'est pas seul, on a non seulement les formidables spectateurs sur Twitch, mais on a aussi les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission sur Patreon, qui sont avec nous dans l'esprit, telle toute la Terre qui donne son énergie, son Genki-Dama à Sangoku pour affronter les news tech. On a aujourd'hui les patriotes que je vais citer qui nous accompagnent: Patrick Ballory, Mourad, Gabriel Le, Anthony, Mathieu, Bernard, Tori et les producteurs. Et vous savez quoi, je vais citer tous les producteurs de l'émission aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. Il y a Raph, Stéphane Nioret, Chulrac, Franck Matignon, Rémi X et Léthargique Panda que je remercie chaque mois, et je les remercie tous ensemble aujourd'hui parce que, figurez-vous, que cette émission a une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de sa tête, puisque aujourd'hui, vous savez quel jour c'est, Jérôme et Corben ? Est-ce que vous savez quel jour c'est ?
Le 6 avril.
Bravo ! Nous avons un gagnant ! Ouais. Oui, et le 6 avril, c'est le jour où est prévu l'accouchement de ma femme. Donc, notre deuxième enfant pourrait arriver d'un moment à l'autre.
Donc, en gros, là, si tu quittes l'émission, c'est pas pour un collier...
Je sais que mon deuxième enfant t'enthousiasme beaucoup, Jérôme, mais tu t'en
penses. Je vais rebaisser mon gars. Et donc là, si tu quittes violemment l'émission, ce n'est pas pour un colis Amazon, donc.
Écoute, c'est un colis Amazon qui a mis 9 mois à être livré, donc j'ai pas intérêt à le rater,
bravo.
Tu vois.
Bravo Amazon. Bravo.
Donc je sais pas jusqu'à quand, mais c'est vraiment bizarre, vous savez, parce que on est là. Enfin, vous savez, Jérôme, toi tu sais peut-être pas, mais Corben, tu connais bien. On est dans une situation où ça peut arriver à n'importe quel moment, et donc je sais pas. Est-ce que je dois continuer à travailler ? Est-ce que je dois préparer des trucs ? Oui, il faut, parce que le premier était en retard de genre 10 jours, donc ça se trouve ça va être un peu en retard. J'espère pas pour ma femme qui commence à être un petit peu fatiguée. Merci à toutes les félicitations du chat Twitch, entre autres. Donc je sais pas exactement comment gérer cette situation, mais bon, ça va bien se passer dans tous les cas.
Moi, on m'a dit, il vaut mieux éviter de commencer un raid sous World of Warcraft dans cette situation.
Le problème, ça va pas être l'accouchement, hein. Le problème, ça va être après.
Non, mais ça, j'ose même pas y penser. Quand même.
Voilà. On n'y pense pas, ça n'a rien à voir. Quand tu passes de 1 à 2, tu comprends ce que c'est la vraie souffrance. 1, c'était facile.
Écoute, vu que le premier était vraiment pas facile, ce que j'espère, c'est que le deuxième sera un peu plus facile, et donc je suis terrifié et je vais avoir moins de problèmes que ce que j'imagine. Mais on verra. Écoutez, en attendant, on va geeker et on va geeker sur Intel. J'ai parlé aux Patriotes justement dans un petit édito où je leur expliquais à quel point j'étais excité par cette conférence d'Intel, et ils m'ont proposé je leur ai proposé de choisir entre différents titres sur le flux privé de Patreon. pour l'épisode. Je crois qu'on aura fini avec Intel The Comeback Kid au lieu de quelque chose de très intelligent. Je pense que l'audience ici aurait préféré le calembour, mais c'est vrai que c'est assez inattendu et c'est vraiment un comeback, enfin un comeback potentiel, parce que Intel, qui a eu des problèmes à répétition dans sa gestion de ses fabrications de processeurs depuis des années et des années maintenant, il n'arrive pas à tenir face à la concurrence, face à la manière dont la concurrence affine la gravure, augmente le nombre de transistors et d'instructions et surtout la capacité à faire des processeurs qui ont une efficacité thermale plus importante. Et Intel avait comme épée de Damoclès, en l'occurrence, un truc qui était recommandé par la plupart des analystes que je lisais, c'était d'abandonner leur fabrication, de faire des designs et d'abandonner la fabrication parce que clairement, au niveau de la fabrication, il n'y arrivait pas, tout simplement. Il n'arrivait pas à descendre en dessous des 14 nanomètres, voire 10 nanomètres. Et le reste de l'industrie est déjà à 5 nanomètres et il se dirige vers les 3 nanomètres. Et quand on fait une finesse de gravure plus fine dans les processeurs, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut mettre plus de transistors dans le processeur, donc faire plus de choses, et qu'on a une enveloppe thermale plus faible, ce qui veut dire qu'on peut consommer moins pour avoir plus de batterie dans les appareils mobiles notamment. Et donc, tout le monde disait, écoutez, vous n'y arrivez pas, ça suffit les conneries, arrêtez de fabriquer vos propres processeurs et passez en fabless, comme tout le reste de l'industrie. Fabless, ça veut dire sans usine de fabrication, et vous serez beaucoup plus efficace, beaucoup plus rentable. Le président de Intel précédent a quitté la société et un ancien de la boîte est revenu à sa tête, Pat Gelsinger, et a fait cette fameuse conférence dont je vous parle et devant laquelle je m'émeus encore. Est-ce que vous savez ce qu'il a dit dans cette conférence et qui me marque tellement, Corben et Jérôme? Vous avez une idée de ce qui a fait vibrer?
Moi, je ne sais pas, mais j'imagine qu'il a dit « fuck le fabless », ton truc. Là.
Oui, fabless, c'est ça, exactement.
Fabless, et on va faire nos trucs nous-mêmes.
C'est exactement ce qu'il a dit, c'est exactement ça. Alors, il a dit plusieurs choses.
Je pense qu'il y a une question de fierté quand même. Enfin, je veux dire... ça serait une vraie régression pour Intel de devenir fabless, quoi.
C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. En fait, il a dit plusieurs choses. Il a dit d'une part qu'il a expliqué les problèmes qu'ils avaient avec la gravure. Ils avaient tablé sur une technologie qui s'est avérée inefficace. Et donc là, ils ont décidé d'abandonner cette fausse route et de se diriger vers la technologie qui fonctionne, qui est, ça s'appelle comment déjà ultra extreme ultraviolet, non, super advanced extreme ultraviolet, en gros c'est de l'ultraviolet très très extrême, et c'est la technique qui marche et qu'utilisent ceux qui y arrivent maintenant, donc ils vont se rediriger sur cette technologie qui sera en place dans quelques années quand même, donc ils ont une période compliquée devant eux tout de même, mais au-delà de ça, ils ont d'ailleurs... annoncer et lancer des nouveaux processeurs qui sont bien en dessous de ce qu'on pouvait espérer, toujours avec ces technologies un petit peu dépassées, on va dire. Mais au-delà de toutes les questions techniques, il y a un élément qui est absolument essentiel, et ce qu'il a mis en avant est une évidence aujourd'hui qu'il l'a dit, mais comme je le disais, il y a encore deux semaines, l'ensemble de l'industrie et les analystes ne voyaient pas ça. Et ce qu'il a dit, c'est qu'il y a aujourd'hui essentiellement qui peuvent faire des processeurs de qualité et de gravure assez fine, il y a deux fondeurs, seulement deux dans le monde. Il y a TSMC à Taïwan et Samsung en Corée du Sud. Et on s'est rendu compte dans ces derniers mois, cette dernière année, qu'on a une dépendance énorme sur les processeurs. Et il y a une société qui est bien placée pour faire regagner l'indépendance à l'Occident et faire fabriquer des processeurs en Occident, c'est évidemment Intel. Et l'idée d'abandonner la fabrication serait une fausse route, mais en tout cas une opportunité manquée, parce qu'ils ont le savoir-faire, ils ont les connaissances, ils ont même les usines déjà, et ils vont en fabriquer plus pour fabriquer aux États-Unis et il a fait des ouvertures grandes comme l'Arc de Triomphe à l'Europe en disant « Si vous voulez fabriquer des trucs en Europe, nous, on peut peut-être vous aider. » On imagine qu'il attend les coups de fil avec des crédits d'impôt et ce genre de choses promis de la part des États. Mais dans tous les cas, on dit souvent « On n'a plus le savoir-faire, on n'a plus les techniques, on n'a plus les personnes pour faire ce genre de choses. » Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a quelques fabricants, quelques fondeurs, et notamment à une ampleur importante Intel. Et c'est vrai que quand on l'entend comme ça, ça devient, à mon sens, une évidence qu'on n'avait pas percutée juste avant et que Pat Gelsinger, qui est une sorte de visionnaire, je trouve, pour ça, a mis devant nos yeux. Oui, on peut faire ça si on utilise les bonnes technologies et Intel est hyper bien positionné pour faire gagner une certaine mesure d'indépendance aux pays occidentaux. Est-ce que ça vous frappe autant que moi, Jérôme, peut-être ? Est-ce que c'est un truc que tu avais vu ou c'est comment dire, ça te semble aussi important que ça me semble à moi ou je m'emporte ?
Il est parti, Jérôme.
Il est parti, Jérôme ? Il n'a plus envie de parler avec nous. Il s'est muté, c'est pour
non,
ça
désolé,
qu'on n'entend pas.
Je m'étais muté parce qu'il y a une répétition de batterie dans l'atelier d'à côté. Je voulais vous infliger ça. Tu aurais eu des roulements de tambour pour chacune de tes phrases, Patrick. Moi, je pense deux choses. D'abord, tu as complètement raison sur la mondialisation. Elle montre en ce moment ses fragilités. Quand il y a trop de concentration sur certains marchés, enfin là, la pénurie de puces à travers le monde fait qu'on se gratte. Ça pose quand même un gros problème et que c'est toujours dangereux quand il y a une concentration de fabricants qui devient trop petite. Donc là-dessus, son analyse, elle est bonne.
Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi qu'ils ne sont pas en Occident, qu'ils ne sont pas en Europe et aux États-Unis.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Et qu'on a besoin de cette autonomie, de cette indépendance.
Par contre, moi, quand même, je n'ai pas suivi l'annonce en direct, mais j'ai suivi les annonces. Il a fallu quand même un grand coup de pied à Intel pour qu'il se réveille. Intel ronflait quand même, qu'on le veuille ou non. Pourtant, la concurrence était déjà là. Mais je crois qu'il y a certaines projections, certaines annonces aussi, de processeurs. Je sais très bien que le fait que Apple ne soit plus chez Intel, c'est pas énorme pour eux en termes de chiffre d'affaires, mais je pense que ça leur a fait mal en termes d'image. Qu'un constructeur comme Apple dise non, Intel ne fait plus des processeurs assez modernes pour nous, ça a été très mauvais pour leur image. Tout le monde en parle encore et a donné un sacré coup de vieux à Intel. Donc c'est rassurant de les voir se réveiller. Il était temps, c'est ça que j'ai envie de dire.
Je dirais qu'il était temps, c'est certain, ça date d'avant Apple, et à mon avis, Apple n'a un élément décideur dans cette nouvelle stratégie que très très faible, et sans vouloir être méchant avec Jérôme, voir les choses par le spectre de la technologie grand public direct, c'est mal comprendre l'énormité de l'importance de cette annonce. Ce dont il parle, c'est le fait que les États occidentaux vont vouloir une indépendance dans la fabrication des processeurs plus grandes, et Intel se dit, vous voulez une solution, nous on vous la propose tout de suite, sans problème, on est là, clé en main, plus ou moins, j'exagère, mais c'est ça qui est important, c'est pas, oui, est-ce que Intel veut faire ou non des processeurs Apple, d'ailleurs ils ont aussi fait un grand appel du pied à Apple pour dire on peut fabriquer des M1 si vous voulez, pas de problème aussi. Donc oui, d'une certaine manière, Jérôme, ça joue sans doute aussi. Mais Corben, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire ?
Moi, je trouve que stratégiquement, d'un point de vue comme ça, rapide et extérieur, je pense que c'est le bon choix qu'ils font parce qu'effectivement, il y a cette histoire d'indépendance, mais c'est surtout pour les États-Unis. Tu dis l'Occident, moi, je vois surtout l'indépendance des Américains, parce qu'ils sont très dépendants des Asiatiques. Les tensions, il y en a beaucoup de plus en plus. Après, économiquement, je ne suis pas sûr. Si on parle des processeurs, on va dire grand public, à équivalent, je ne sais pas comment. Enfin, je pense que les processeurs Intel, après, seront chers, très chers, parce que vu qu'ils ne vont pas faire fabriquer en Asie, ils vont fabriquer sur le sol américain ou sur le sol européen, s'il y a des usines en Europe, je ne sais pas. Le coût de la main-d'œuvre et compagnie, ça sera plus cher. Donc peut-être que les processeurs Intel, en tout cas pour le grand public, sont peut-être beaucoup plus chers à l'achat que des processeurs fabriqués en Asie.
Ce qui est intéressant avec Intel, c'est qu'ils font un petit peu tout. Ils font fabriquer des processeurs chez des fondeurs externes. Ils font aussi de la fabrication. En tout cas, ils se sont dit qu'ils pouvaient faire de la fabrication pour d'autres fabricants, enfin d'autres designers qui voulaient faire fabriquer chez eux. Ils ouvrent un petit peu, ils s'ouvrent à toutes les possibilités. Et d'accord. Ils ont déjà des usines aux États-Unis. Ils vont en ouvrir deux de plus à l'horizon, qui seront fonctionnelles à l'horizon 2023-2024, aux États-Unis, je crois que c'est en Arizona, potentiellement au Texas aussi. On a tendance à oublier qu'on a en Europe et aux États-Unis une certaine part de la fabrication de processeurs dans le monde qui est déjà présente. On a 10% de la fabrication de processeurs mondiale qui se fait en Europe. C'est un truc que je ne savais pas il y a encore quelques mois. Mais donc, on n'est pas à zéro, ni en France, enfin, ni en Europe, ni aux États-Unis. Donc, ce que propose Intel, c'est pas de tout reconstruire de zéro, ce qui prendrait sans doute beaucoup plus de temps, mais de sauver une industrie qui existe encore un petit peu et de changer le cours des choses avant qu'il ne soit peut-être trop tard. Je dis, c'est ce que propose Intel. Intel propose une aide aux États qui ont déjà décidé de le faire aux États-Unis et en France. Enfin, et en France. Je parle de l'Europe et de la France dans un grand lot, mais ce n'est pas que les États-Unis, il ne faut pas croire. L'Europe aussi a décidé qu'après la pandémie, ils se sont rendus compte qu'il fallait une certaine autonomie pour ce qui est des processeurs. Alors, ça ne veut pas dire que tous les processeurs vont être fabriqués chez nous. L'idée, c'est que si jamais il y a des problèmes d'approvisionnement au niveau mondial une nouvelle fois, eh ben qu'on puisse avoir au moins un minimum de processeurs fabriqués chez nous, peut-être pas les plus fins, les plus efficaces, les moins chers, mais au moins qu'ils existent et qu'ils soient là. Après, parce qu'on a vu à quel point ça a affecté l'automobile, l'aviation, enfin, ça affecte tous ces problèmes d'approvisionnement qu'on connaît depuis quelques mois. Donc,
après,
je pense que c'est une bonne stratégie.
Que quand tu fabriques un truc, que c'est ton cœur de métier et que ta boîte, elle fait ça... déporter ton savoir-faire et plus en être maître et machin, enfin tu vois, c'est plus toi qui fais, c'est un peu dommage quoi. C'est juste attendre qu'on te bouffe ton.
Bah, c'est ce que fait tout le monde en ce moment. C'est vraiment la tendance de toute l'industrie parce que c'est tellement spécialisé que c'est difficile de maîtriser toute la chaîne de la production, tu vois.
Mais on l'a vu avec les chaînes de production de médicaments ou même de masques. Cette année, enfin l'année dernière, c'est la même chose sur d'autres secteurs et c'est dommage, c'est super dommage.
C'est bah oui, clairement. Et ceux qui se frottent les mains, c'est les Allemands de ASML qui sont les seuls à fabriquer des machines qui peuvent graver en 7 nanomètres, en extreme ultraviolette. Et c'est des Allemands qui font ces machines-là, qui équipent TSMC, Samsung et tout le monde. C'est marrant, hein, on penserait pas, mais les machines qui sont utilisées pour graver dans ces finesses sont des machines allemandes. Donc bon, comme quoi, j'ai envie de dire... Hein,
ah, la mécanique allemande.
Et c'est ça, exactement, c'est exactement. Bon, donc voilà pour Intel. Moi, ça me paraît être une chose hyper importante et peut-être une stratégie, je pense, potentiellement une stratégie gagnante pour Intel. Et ce qui me marque surtout, c'est cette idée que... Alors, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont venir maintenant dire « Ah bah ouais, mais évidemment qu'il fallait faire ça, c'était clair. » Mais je peux vous dire que j'ai lu beaucoup d'analyses et beaucoup de reportages de journalistes sur Intel. Et personne, jamais, n'a dit « Oh, il faut qu'Intel garde ses usines. » Jamais. Donc maintenant, ils vont avoir beau jeu de dire « Mais bien sûr, c'est un choix évident. » Et oui, il est évident maintenant que Pat Gelsinger l'a dit. Moi, je suis un petit peu... j'ai un petit crush sur Pat Gelsinger après cette conférence, je crois. Regarde.
Ils vont occuper le terrain, en fait, parce que
ah oui, complètement.
Si ça met des années là, à se développer, etc., leur axe et leur techno... Comment, avec quoi est-ce qu'ils vont récupérer le terrain? Est-ce qu'ils vont accepter d'être second, troisième ou je sais pas quoi au niveau mondial, ou est-ce qu'ils vont occuper le terrain quand même en vendant des choses?
Ah bah, vu les reviews des derniers processeurs qu'ils ont sortis là en disant « Oh, ils font 20% ouais. mieux, ils sont bien mieux. » À mon avis, ils vont être bon deuxième, peut-être troisième. Là, c'est une stratégie sur le moyen terme, on va dire à 3, 4, 5 ans. Hein. Là, ils sont en train de payer les pots cassés de ces dernières années encore et pendant quelques années. Ouais. Bon, parlons un petit peu d'Amazon en parlant de pots cassés. Pour la transition, je vais juste dire que Intel investi 20 milliards de dollars dans les années à venir pour plus de pour faire plus d'usines, et il y aura peut-être plus d'argent investi dans d'autres endroits. Mais TSMC investit 100 milliards sur les trois prochaines années. L'Inde est en train de donner 1 milliard par société qui peut mettre des usines chez eux. Il y a aux États-Unis 50 milliards de dollars qui sont prévus pour la technologie et les semi-conducteurs spécifiquement dans leur plan de relance. On sait qu'on a des grosses sommes qui sont prévues en Europe aussi pour la tech en général et pour la fabrication de processeurs également. Donc ça bouge beaucoup à ce niveau. C'est des choses qui vont pas... Enfin, il y a des gros mouvements dans ce domaine-là, je voulais le mentionner. Parlons donc d'Amazon un petit peu. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Amazon sur Twitter. Jérôme, tu me disais que tu suivais un petit peu cette histoire.
Bah, y a eu ce qui était le plus amusant, c'est peut-être pas le bon mot, mais... c'est de voir le Twitter d'Amazon officiel, qui est plutôt un Twitter très modéré, qui dit rien.
C'est Amazon News, très spécifiquement.
Amazon News. Très spécifiquement, descendre dans l'arène. Et en fait, c'est un peu comme... l'analogie que moi j'avais en tête, c'était un peu comme si le Twitter officiel d'Apple... tout d'un coup se mettait à tweeter les anti-Apple vous faites chier, on fait ce qu'on veut nous avec notre... Enfin, tu vois, il y avait un ton qui a tellement changé en fait sur le Twitter, ça faisait vraiment bizarre quoi, sur cette histoire. C'est ce que j'ai retenu moi en tout cas.
Oui, en fait c'est tellement étrange comme changement de ton qu'on a presque du mal à l'expliquer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le compte Amazon News s'est mis à alpaguer des hommes et des femmes politiques américains pour leur reprocher ce qu'ils disaient d'une manière qui était vraiment trollesque. C'est presque comme si on avait filé les rênes du compte d'Amazon News à une sorte d'adepte de Donald Trump, quoi. Le plus clair, oui, ou à Corbyn, c'était bon, quand même pas jusqu'à Corbyn, ils ne sont pas allés jusque-là, il ne faut pas exagérer. Mais le truc qui a été le plus marquant, et celui par lequel ça a commencé, c'était des personnes qui parlaient sur Twitter du fait que l'un des problèmes... Alors, Amazon a eu énormément de problèmes avec des questions de syndicats, de traitement de leurs employés et de mauvais traitement de leurs employés. Et certaines personnes sur Twitter étaient en train de parler du fait que certains conducteurs de camions Amazon n'avaient pas le temps d'aller aux toilettes et étaient donc obligés d'uriner dans des bouteilles en plastique dans leur camion. Et ils laissaient les bouteilles en plastique dans le camion et donc ça faisait des... Enfin, parfois, ils les laissaient dans le camion.
Pour être précis, il n'y avait pas que les conducteurs aussi. Hein. Ils parlaient aussi de gens qui faisaient pipi dans les entrepôts, dans des bouteilles, pour pouvoir garder leur productivité. Quoi.
Parce qu'ils n'ont pas assez de temps de pause.
Moi, j'ai suivi ça de loin, mais en fait, je n'avais pas compris ce point-là. En fait. C'est-à-dire que moi, d'abord, quand j'ai vu Amazon, les gens pissent dans des bouteilles, bon, je me suis dit, c'est normal, c'est comme chez Patrick, on fait un live, on n'a pas le temps d'aller pisser, on pisse dans les bouteilles. Après, j'ai vu que c'était les chauffeurs, donc je me suis dit, effectivement, c'est galère de trouver des chiottes, d'aller pisser quand t'es en ville, etc. Donc là, tu vois, sur le coup, je me suis dit, bon, c'est pas très cool, mais en même temps, quelque part, ça s'explique, tu vois, ça peut s'expliquer. Mais quand j'ai vu que c'était après sur les gens qui bossaient à la chaîne, dans les usines, c'est clairement inexplicable.
Mais en fait, cette question est l'un des éléments de la discussion, mais ce n'est pas tellement ça qui, au-delà de l'aspect inexcusable ou non du problème, le vrai, ce qui s'est passé, c'est que un représentant du Congrès américain a répondu à la personne en disant « Ah là là, il ne suffit pas de payer les gens $15 par heure pour devenir progressif quand vous cassez les syndicats et que vous forcez les travailleurs à pisser dans des bouteilles, à uriner dans les bouteilles. » Et là, le compte d'Amazon News a répondu Non, mais attendez, vous croyez pas vraiment ces histoires de pisser dans des bouteilles quand même, hein ? Franchement, si c'était vrai, personne viendrait travailler pour eux. La réalité, c'est qu'on a plus de 1 million d'employés formidables et blablabla et blablabla. Le problème, c'est que non seulement cette histoire d'uriner dans des bouteilles est vraie, mais qu'elle est en plus extrêmement documentée et que on a toutes les informations là-dessus. Et le ton de cette réponse était hyper agressif et trollesque. Et ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont répondu comme ça à différents. C'était eux et quelques autres employés d'Amazon. Ils ont répondu à différents responsables politiques. À Alexandria Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren, enfin, à plein de gens de ce type-là. Il disait par exemple, ouais, à Elizabeth Warren, vous faites les lois, nous on fait que les suivre, hein, les lois sur les impôts et les taxes. Si vous aimez pas les lois que vous créez, allez-y, changez-les, pas de problème. Nous on a payé des milliards de dollars de taxes de sociétés, d'impôts de sociétés sur rien que sur ces dernières années. Et c'est genre,
le ton était vraiment bizarre, quoi.
C'est pas un community manager qui est parti freestyle.
Alors, c'est ce qu'on a pensé pendant un moment. Et ce qu'on a eu comme investigation ensuite semble indiquer qu'il y a eu une réunion avec Jeff Bezos qui disait à son board « Non, mais les gars, vous n'êtes pas assez agressifs pour corriger les choses inexactes qui sont dites sur nous. » Visiblement, il était un petit peu énervé. Et il semblerait que l'un de ces... À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que l'un ou quelques-uns des execs...
Il a fait du zèle, quoi.
C'est ça. Ils se sont dit « Oh merde, Jeff est pas content. Oh là là, putain !» Et donc, ils sont allés dire à leurs équipes « Non, non, mais allez-y, allez-y à fond, il n'y a pas de problème. Nous, il faut qu'on leur rentre
dedans. »
Vas-y,
lâche-toi, Coco.
C'est ça, lâche-toi, Coco. Et évidemment, ça a été complètement... mal reçu, enfin, ça a été fait n'importe comment, et on a ces derniers jours beaucoup plus de calme à ce niveau-là, et ils ont en plus envoyé ils se sont excusés pour l'histoire du pipi dans les bouteilles, en disant « Oui, enfin, vous savez, c'est un problème qui est vraiment dans toute l'industrie, et c'est vrai qu'il y a plein d'endroits qui sont fermés maintenant, donc c'est encore plus difficile pour nos conducteurs qu'avant de s'arrêter pour aller aux toilettes. Mais c'est vrai, on a merdé là-dessus, désolé, on va essayer de faire mieux. » Enfin, ils sont excusés. À mon avis, Bezos a eu je sais pas, il était sur une île et sa femme était sur Twitter, elle a dit « Mais Jeff, t'as vu ce qu'ils sont en train de faire là avec le compte Amazon News ?» Et là, il prend l'empreinte de son iPad et il voit le truc, il dit « Mais qu'est-ce que vous foutez, bordel ?» Et je pense qu'il a passé un ou deux coups de fil pas content et que donc ils se sont calmés. Mais pendant quelques jours, c'était vraiment « Mais qu'est-ce qui se passe chez Amazon ?» Surtout qu'ils sont vraiment pas populaires, ces histoires avec les problèmes de syndicats. Dieu sait qu'ils sont pas populaires en Europe, hein, mais aux États-Unis, les syndicats fonctionnent différemment et ils ont été encore plus affichés pour les problèmes qui sont posés avec les syndicats. Je vais pas rentrer dans les détails, mais clairement, c'est pas très joli. Et en plus de ça, ça a fait ressortir des histoires qu'ils payent des employés pour poster sur les réseaux sociaux pour défendre Amazon. Enfin, c'était vraiment pas la bonne stratégie à appliquer, on va dire.
Déjà, tu nous donnes deux infos quand même que je trouve hyper capitales. Donc, Jeff Bezos est remarié, il utilise un iPad. Tu es sûr de ces sources, Patrick ?
Alors, l'iPad, je pense que c'est possible. Et quand je dis sa femme, je voulais dire sa meuf, tu vois, sa copine. C'est ça que je voulais dire. Okay. C'est parce que je suis jeune.
J'essayais, tu vois, de faire un peu le gala de l'émission, de l'info croustillante. Il n'utilise pas une tablette Fire, il utilise un iPad, trahison.
Les tablettes Fire, je crois qu'il n'y en a plus qui les utilise.
En fait, il a reçu l'info sur son Kindle, c'est pour ça que ça a mis un peu de temps, en fait.
À arriver, exactement. Donc bon, c'était un truc qui m'avait marqué, et c'était vraiment c'est symptomatique de ces grandes sociétés qui essayent de se démener tout court. Je crois qu'on peut arrêter la phrase là, en fait, qui se démène pour se faire entendre, pour combattre les politiques avec les opinions. Ce qui m'a vraiment frappé, en plus, c'est que quand j'ai dit ça, J'ai eu des gens qui m'ont répondu, j'ai des gens qui me suivent depuis les États-Unis sur Twitter, pas mal, des gens qui m'ont répondu pour me dire « Ouais, de toute façon, la seule chose qui est pire que les grandes sociétés de la tech, c'est le Parlement américain. Donc, de toute façon, moi, je n'aime ni l'un ni l'autre. » Enfin, il y avait une défiance à l'égard des deux qui peut peut-être expliquer pourquoi.
Il y a un truc qui peut nous surprendre un petit peu de ce côté-là de la mare. Aux États-Unis, l'histoire syndicale des États-Unis, enfin, ils sont violents. Les syndicats aux États-Unis, c'est très gauche, en fait, paradoxalement. Et les défenseurs, entre guillemets, des syndicats ont des tons très, très engagés. Et l'erreur énorme qu'a commis Amazon, c'est de rentrer dans le jeu, justement, de ces parlementaires qui sont derrière les syndicats, et Bernie Sanders, notamment. Et c'est vrai que ça peut surprendre. Nous, on nous a toujours appris qu'il n'y avait pas de gauche aux États-Unis. Si, et elle peut être très, très virulente et très guerrière, entre guillemets. Et elle ne lâche pas le morceau. Quand il plante les dents, on l'a vu avec les routiers américains. Enfin bon, il y a même des films là-dessus.
C'est, oui, les syndicats aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait les mêmes syndicats qu'en Europe. Et qu'en France, en tout cas, en Europe, c'est encore un autre problème. Mais c'est vrai qu'il y a des fonctionnements différents. Et l'un des problèmes énormes aux États-Unis, c'est que, enfin, chez Amazon, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont syndiqués et donc très peu de gens qui représentent les intérêts des travailleurs aux États-Unis parce que, très sincèrement, l'État ne représente pas énormément l'intérêt des travailleurs aux États-Unis. Donc, si tu n'as pas de syndicat, tu as très peu de boucliers. Et donc, Amazon peut faire un petit peu ce qu'ils veulent. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est pour résumer un peu. Et ce qui se passe, c'est que les efforts de création de syndicats au sein d'Amazon, parce que c'est souvent par industrie ou par société, quand on a une société aussi grande qu'Amazon, les créations de syndicats au sein d'Amazon ont été, compliquées de manière arguably, on pourrait dire que c'est illégal, d'ailleurs certaines instances ont déterminé que c'était illégal, par Amazon. Il y a eu des renvois de personnes qui essayaient de se syndiquer, alors que ça, t'as pas le droit, enfin, plein de choses comme ça, et c'est un problème bien plus vaste, mais c'est au cœur, effectivement, comme tu le disais, Jérôme, d'un débat qu'il y a entre la politique et les hommes et les femmes politiques aux US et le monde de l'entreprise et en particulier d'Amazon. Et c'est un combat qui est, comme on le voit, assez un petit peu sans merci, quoi. Bref, je pense que Amazon News va se calmer pendant un moment là quand même, parce que ils sont.
Oui, je pense que puis je pense qu'il y a un CM qui cherche du travail là.
C'est très possible.
Ils ont annoncé des choses par rapport à ça. Est-ce qu'ils vont essayer de régler le problème? Il y a eu un truc un peu positif qui est sorti de tout ça ou pas?
Ah ben, ils disent tout le temps qu'ils vont essayer de régler le problème. Tu sais, que ce soit Amazon ou les autres. Et c'est bon, si on essaye de traiter les choses de manière un petit peu sérieuse, il y a des avancées dans tous les domaines parce qu'il y a justement ces poussées et ces combats entre les différents représentants. Et il y a, par exemple, au début de la pandémie, ils ont augmenté le salaire minimum à $15 par heure, alors qu'ils étaient à 10 ou 12, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, tu vois, il y a des avancées, mais ça devient une question un petit peu politique que je ne veux pas aborder en deux minutes. Donc, il faudrait peut-être en parler plus, mais il y a des avancées, il y a des reculades en même temps, quoi.
Il y a un truc que j'ai trouvé intéressant dans la simultanéité des annonces. Je vais essayer de ne pas faire hors sujet, mais pratiquement au moment où il y a eu cette histoire de pipi sur les chaînes de distribution d'Amazon, entre guillemets, il y a Boston Dynamics qui a présenté son robot spécialement conçu pour bouger des cartons dans les entrepôts qui ne sont pas prévus pour la robotisation. Donc, là, je crois qu'on est, on est en plein. C'est con à dire, mais un travailleur humain, enfin c'est con à dire. Un travailleur humain, il a besoin de pause pipi. Et évidemment, quand Amazon fixe des objectifs de rentabilité, d'accélération, parce que les consommateurs veulent les produits de plus en plus vite, on est en train de pousser effectivement à la robotisation de tous ces métiers-là. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose ? C'est un autre débat et très complexe, beaucoup moins manichéen qu'on pourrait le croire. Mais j'ai trouvé que la simultanéité des deux annonces était drôle. Ouais. D'un côté, on avait des problèmes de pipi de travailleurs humains, qui c'est tout à fait humain. Et d'un autre côté, des robots capables de faire le boulot 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quoi.
Ouais. C'est effectivement, mais je crois qu'on se dirige là-dedans de toute façon, et on pourrait reparler de la modernité et de la technologie dans son ensemble, dans l'histoire et l'histoire du travail. Mais là, je crois que pipi ou pas pipi, le jour où Amazon peut remplacer ses travailleurs dans les entrepôts par des robots, et ils ont déjà une grosse partie du travail qui est fait par des robots, plus ils peuvent en remplacer. Le truc, c'est que les entrepôts Amazon sont déjà conçus pour les robots, donc ils en ont déjà autant qu'ils peuvent. Je ne suis pas sûr que ce robot spécifiquement les intéresse, mais autant qu'ils peuvent, ils vont remplacer par des robots, c'est évident.
De toute façon, ça, c'est juste une des choses sur lesquelles Amazon a raison en disant que ce n'est pas qu'un problème que amazonien, entre guillemets. C'est un problème de l'ensemble de la distribution et quand même avec une exigence de la consommation où on veut les produits de plus en plus vite, de moins en moins cher. Voilà, il y a un problème aussi global sur le marché de la distribution, hein, et le rapport du travailleur par rapport à la distribution.
Bon, ça serait un sujet à explorer un peu plus longuement. Un jour, on aura le temps, peut-être. Mais pour le moment, on va explorer un petit peu plus longuement un autre sujet tout aussi important, voire bien plus important, selon certaines sources bien informées, qui est le sujet de Patreon. Patreon, c'est le moyen de soutenir l'émission. Et oui, le moyen de soutenir l'émission que vous connaissez pour certains d'entre vous, puisque vous êtes déjà patriote, c'est un moyen de soutenir financièrement le rendez-vous jeu ou le rendez-vous tech, plus spécifiquement, puisqu'on est dans le rendez-vous tech. Moi, j'ai l'esprit qui est un petit peu à la maternité, là. Et quand vous décidez que vous appréciez suffisamment l'émission pour peut-être filer un petit coup de main, et vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et donner 1 euro, 2 euros, 3 euros, comme vous le souhaitez. C'est vous qui voyez. Vous voyez les récompenses qui correspondent au niveau que vous souhaitez, auquel vous souhaitez contribuer. Et à la fin du mois, vous êtes débité et c'est hyper simple. Vous choisissez quand vous voulez vous arrêter par vous-même. Et en plus de ça, vous avez évidemment la satisfaction de soutenir un travail que vous appréciez. C'est vrai qu'il fut une époque où on allait acheter des magazines dans un kiosque et que cette époque est un petit peu révolue. Mais peut-être qu'à l'époque, vous alliez acheter votre magazine avant d'aller dans le métro ou dans le train ou je ne sais pas, dans votre lit ou pour lire sous votre douche. Mais non, vous ne pouviez pas lire sous votre douche. Par contre, vous pouvez écouter le rendez-vous tech sous votre douche. Et certains le font, je le sais, parce qu'ils et elles me l'ont dit. Et du coup, ça veut dire que le rendez-vous tech a une valeur d'entertainment et d'information qui est absolument incroyable. Et si vous vous rendez compte que quand l'émission arrive sur votre app de podcast, et ben vous vous dites « Cool, je vais passer une bonne semaine, enfin un bon trajet, ou faire le ménage de manière un petit peu agréable parce que j'ai le rendez-vous tech qui va m'accompagner », et ben ça veut dire que vous aimez bien cette émission. Est-ce que vous l'aimez bien à la valeur d'un café, à la valeur d'un croissant? C'est à vous de décider. Vous allez sur patreon.com/rdvjeux. Non, mais décidément, rdvtech, vous pouvez aussi aller sur rdvjeux si vous le souhaitez. Et vous pouvez contribuer au Patreon qui me permet de continuer à fabriquer cette émission. Et vous deviendrez une partie de cette merveilleuse machine qui fait que le rendez-vous tech est dans vos oreilles chaque semaine.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je
vous remercie de soutenir l'émission. Qu'est-ce que tu voulais dire, Jérôme ?
J'allais te demander, est-ce que tu prends le temps de faire pipi entre tes émissions, Patrick ? Parce que c'est ça qui est important. Doit-on monter un syndicat du podcasteur pour des conditions de travail indignes ?
Écoute, non, mais ce que je fais, c'est que j'essaye de faire durer cette petite promo au milieu bien 2-3 minutes pour que vous, les invités de l'émission, ayez le temps justement d'aller faire pipi. Et ça, je pense que c'est un bénéfice qu'on n'apprécie pas assez dans cette émission. Bon, donc voilà pour le Patreon. Merci à vous tous et toutes. Patreon.com/RDVTech. J'ai réussi à le dire la troisième fois. Allez, on va parler des petites news supplémentaires que je voulais évoquer. Est-ce que vous avez vu ce poisson d'avril ? Alors, il y a plusieurs choses dont on veut parler. D'abord, Clubhouse un peu partout. Il y a des histoires de certificats de vaccins, d'intelligence artificielle, du matériel qui a été annoncé. Mais avant ça, il y a deux choses que je voudrais évoquer. Le poisson d'avril de Deliveroo. Vous avez vu ça, de Deliveroo,
Ouais, et puis moi, ça a marché. Hein.
Ça a marché Mais en fait...
Je l'ai lu, comme la plupart de mes mails, je l'ai lu en diagonale, machin. Je fais, oh putain, et tu vois, comme entre guillemets, nous avons des toutes petites notoriétés, je me suis dit, putain, ça y est, j'ai un connard qui m'a fait la blague de l'envoi de 50 pizzas à mon adresse. Et j'ai pas, ce jour-là, j'étais tellement pas dans le mood poisson d'avril, parce que c'était une journée très dure pour moi le 1er avril, enfin, il y avait plein de boulot, que je l'ai vraiment pris au pied de la lettre et je me suis fâché tout rouge. Après, j'ai vu que c'était une blague très rapidement. Il m'a fallu une fraction de seconde, mais ça a marché pendant une fraction de seconde.
Expliquons quand même de quoi il s'agit. Pour le 1er avril, en dehors de toutes les blagues complètement pourries qui ont été faites partout sur Internet, MKBHB en a fait une très bien d'ailleurs. C'est vraiment comme ça qu'il faut les faire. Il a testé son nouveau Mac qui est son chien. C'est le chien du studio et il s'appelle Mac et il l'a testé comme un produit tech. C'était super mignon, super, super simple, joliment fait. Et ça, c'était bien. Mais la plupart des autres, c'était un peu comme Deliveroo qui a envoyé à tous ses clients, si je ne m'abuse, un mail pour dire « Bravo pour votre commande de 38 pizzas à 500 €. Elle arrive très bientôt. » Mais sans aucune indication que... Enfin, il y avait un tout petit texte en bas de la facture en disant « Oh, le poisson d'avril a frappé, oh, 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 comme c'est marrant !» Évidemment, personne n'est allé lire ce texte. Et des gens ont pensé qu'il y avait alors soit carte bleue piratée, soit qu'il y avait eu un problème avec le système de Deliveroo. Et enfin, comme l'ont très bien dit certains, c'est pas très drôle de penser que tu t'es fait débiter 500 € sur ton compte, quoi. Il y a des gens pour qui ça représente énormément. Enfin, c'est une somme, triviale pour très peu de gens, je pense, pas pour nous en tout cas, mais il y a des gens pour qui c'est une catastrophe. Et enfin, j'ai pas compris. C'était vraiment lamentable, quoi.
Non, faut être stupide pour faire un poisson d'avril comme ça. Ils ont pas réfléchi. Ils se sont dit ça va être drôle, mais c'est pas drôle en fait. Ça fait stresser les gens. À partir du moment où ton poisson d'avril, il fait stresser les gens. Quand tu prends les gens pour des cons, tu leur fais croire un truc, tu les fais rêver, tu leur fais croire un truc qui n'existe pas, et tu leur dis poisson d'avril, ça peut passer, quoi. Mais quand tu les stresses, c'est un poisson d'avril de merde.
Ouais, complètement.
Moi, je suis pas contre les poissons d'avril, même si c'est un côté super ringard.
Les poissons d'avril, je suis contre.
Non, mais ça commence à avoir un côté super ringard. Surtout que c'est vraiment pas la période. Mais là où je suis complètement d'accord, un truc drôle, une bonne blague, mais bienveillante, ça passe. Mais la vieille farce à l'ancienne, un peu cruelle, les blagues un peu méchantes.
C'est ça, c'est cruel. Ça marche vraiment plus,
quoi.
Cruel.
Ah, mais c'est cruel, c'est juste cruel, quoi.
Ouais, ouais.
Prendre, en plus, c'est juste pour dire, ah, t'as été un idiot, t'y as cru, quoi.
Ouais. Non, mais c'est vraiment. Enfin bon, bref. Donc voilà, poisson d'avril à 500 €, c'est assez lamentable. L'autre truc que je voulais évoquer, c'est que le CNC a enfin décidé qu'avec tous les problèmes de cinéma fermés, on pouvait suspendre la chronologie des médias et que donc certains films pourraient aller au cinéma, il faut quand même faire la demande auprès du CNC spécifiquement, mais pourraient aller au cinéma et aller sur les plateformes de SVOD aussi à peu près en même temps. Ça avait déjà été le cas... Non, ça c'est pas un poisson d'avril.
J'allais dire la même chose.
Non, non, je te rassure, c'est pas un poisson d'avril. Et ça avait déjà été le cas l'année dernière, mais pas pour la SVOD. Je crois que c'était uniquement pour la vente numérique. Là, c'est pour la VOD et la SVOD. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura peut-être Black Widow en SVOD sur Disney+. Peut-être. Pour le moment, ils disent que non, mais c'est pas impossible. On a de l'espoir. Il était temps quand même. Et que ça soit suspendu temporairement, je comprends. Mais oui, il était temps, je trouve.
Bah, disons que toutes ces histoires, on va avoir un redesign profond de la production et de la distribution de l'audiovisuel en général. On voit
moi, j'y crois pas du tout. Hein. Moi, j'y crois pas. Moi, je crois que ça va être un redesign très temporaire et que juste après, le CNC va dire « Bon, bah, maintenant, la fête
est finie. » Oui, mais le CNC va peut-être se planter. Mais au niveau mondial, on va pas revenir en arrière. Voilà, il y a des changements énormes qui sont en train de se produire.
Oui, au niveau mondial, je suis d'accord. On est clairement en train de... Ça sera peut-être compliqué de revenir complètement en arrière, oui. Mais ouais. Bon, en France, il faudra voir si en France ça sera affecté. Déjà, il y a, en fait, le décalage, on parle de SVOD spécifiquement parce que c'est le cas le plus important, ça veut dire Subscription Video On Demand, donc Netflix, etc. Aux États-Unis, généralement, les films arrivent sur Netflix ou équivalent, ou Disney+, ou ce que c'est, 3 mois après la sortie en salle. À quelques jours près, en même temps que la sortie en Blu-ray. En France, la SVOD, je crois que c'est combien maintenant ? C'est plus 36 mois, je crois que c'est 24 mois minimum, quelque chose comme ça. Donc 2 ans. Donc entre 3 mois et 2 ans, il y a quand même une différence substantielle, on va dire. Il faudra voir si la France peut résister quand les cartes seront redistribuées encore plus. Clubhouse, vous connaissez Clubhouse, la petite app qui fait beaucoup de bruit ces derniers mois avec le confinement. Eh bien, alors, je rappelle très rapidement, pour ceux qui ne se souviennent pas de ce qu'est Clubhouse, Clubhouse, c'est une app qui permet d'ouvrir une salle de discussion à laquelle on va inviter plusieurs personnes et à laquelle peuvent participer en écoutant seulement un nombre de personnes à peu près illimité, plusieurs milliers. En gros, c'est un petit peu le streaming pour l'audio uniquement, et ça a connu un grand succès, en particulier dans des domaines spécifiques. Il y a beaucoup de personnes de couleur aux États-Unis qui ont trouvé un moyen de créer des communautés qu'ils ou elles n'avaient pas ailleurs. Il y a la communauté des crypto-monnaies et de la blockchain qui est visiblement très active là-dessus aussi. Bref, ça a fait un petit buzz dans la Silicon Valley, et maintenant, un petit peu comme les stories à l'époque de... c'était Snapchat, les stories, si je ne m'abuse. Eh bien, tout le monde est en train d'intégrer une fonctionnalité Clubhouse-like dans leur application. Slack a annoncé qu'ils allaient intégrer cette fonctionnalité, en plus des DM, ils ont des direct messages dans Slack aussi. LinkedIn va ils sont en train de travailler sur un rival à Clubhouse. Discord a déjà lancé un Clubhouse-like, etc., etc. Et Clubhouse est en train de travailler à des moyens de monétisation, enfin... des moyens pour payer les gens qui ouvrent des clubhouses, enfin des salles de discussion, ce qui est sans doute un bon moyen de les inciter à rester sur Clubhouse et à l'utiliser de plus en plus.
Donc, vu que Spotify avait racheté aussi un concurrent de Clubhouse.
Ouais, effectivement.
Il y a d'autres acteurs de l'audio qui cherchent à concurrencer aussi Clubhouse, donc ça va être intéressant.
C'est complètement... Alors, je pense que... Enfin, on ne sait toujours pas si Clubhouse est une mode ou une vraie nouvelle fonctionnalité du monde, mais ce qui est clair, c'est que là, c'est en train de se diffuser un peu partout, quoi.
Je pense que là, on a un problème assez classique dans le monde de la tech. Est-ce qu'ils sont une fonctionnalité ou vraiment... Tu vois, ils ont eu le mérite de packager une fonctionnalité correctement. Mais c'est un peu comme les stories. On peut dire que les stories ont été volées, mais en même temps, si d'autres plateformes ont aussi bien intégré les stories, ça prouve juste que c'était juste une fonctionnalité, pas un produit en soi, en fait. Ouais. Et c'est ce qui risque de se passer avec Clubhouse. Clubhouse, ils n'ont même pas leur propre technologie. C'est pas eux qui ont inventé la technologie de streaming de l'audio. Ils ont juste packagé, pour moi, une fonctionnalité.
Ouais, complètement.
Le risque de te faire piquer dans ces cas-là est encore plus grand.
Ouais. Et ils n'ont pas encore de réseau social qui fait qu'ils sont difficilement remplaçables. La fonctionnalité intégrée à d'autres réseaux sociaux peut prendre ou ne pas prendre, mais en tout cas, elle est déjà là. Donc, ça fait en sorte que les gens n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Le fait de pouvoir payer, ça peut-être faire en sorte que les gens sont motivés à rester sur Clubhouse pour se faire payer pour ça, potentiellement. Mais bon, on verra.
Ah, c'est la joue comme Snapchat, quoi.
Bah oui, exactement, oui. Ça peut être un autre exemple de ce qui s'est passé avec Snapchat. Ceci dit, après, Snapchat est encore là. Hein. Oui, pardon, Jérôme.
Oui, bien sûr. Mais...
Non, pas de souci. C'est vrai que le nerf de la guerre devient aussi, on va dire, la rémunération des créateurs de contenu. L'époque tu pouvais avoir l'illusion que tu allais monter un réseau puissant avec des créateurs qui allaient faire le boulot à ta place, en gros, créer du contenu gratuitement, pour faire vivre ta plateforme, c'est fini. Les créateurs de contenu, maintenant, ils veulent être payés pour leur boulot ou en tout cas qu'il y a un business model viable pour eux. Donc, l'avenir de Clubhouse, pour moi, il est uniquement à ça. S'ils arrivent à trouver un moyen pour que les créateurs de contenu restent, ça marchera. Sinon, ils vont partir ailleurs, les créateurs de contenu.
Vous avez entendu parler de patreon.com/rdvtech pour soutenir les créateurs de contenu que vous appréciez, comme Patrick Béja. Bon, quelques histoires en vrac. L'État de New York a lancé le passeport vaccin qui s'appelle Excelsior Pass. Excelsior, c'est la phrase, comment dire, clé, le slogan, le mot clé de l'État de New York. Le Japon est également en train de travailler là-dessus, l'Europe également. Moi, je suis un petit peu en train de revenir sur mon estimation sur ce truc. J'étais un petit peu impacté par l'idée que il faut pas imposer aux gens le passeport, imposer aux gens le vaccin, et je continue à penser que je comprends pourquoi on ne l'impose pas. Mais en même temps, je me dis, si on a un moyen simple de savoir si une personne est vaccinée ou pas et que c'est un problème de santé publique important, peut-être que ça ne serait pas forcément une mauvaise idée de faire un passeport vaccin. Bon, en même temps, un passeport comme on le fait en Europe qui inclut aussi le fait qu'on ait été testé négatif très récemment, ça peut peut-être pallier à la chose aussi, mais bon, bref, je sais pas. Je continue et puis je vous donne la parole juste après. Robinhood est en train, vous vous souvenez de Robinhood qui permet de très facilement investir dans des actions comme le font les grands pontes de Wall Street. Et ben maintenant, ils sont en train d'ajouter une fonctionnalité à leur app pour acheter des actions au moment de les IPO, les passages à la bourse, l'entrée à la bourse d'une société, pour permettre à n'importe qui d'acheter des actions d'une société qui se lance dans la bourse, comme tout le monde, comme les gens de la bourse.
Je peux permettre une petite explication. C'est juste que quand il y a une IPO, jusqu'ici, on va dire les initiés, les banques avaient un prix préférentiel au lancement de l'IPO. Ce qui était assez scandaleux parce que, on va dire, le grand public avait tendance à acheter un peu au prix des pigeons, quoi. Et que les acteurs traditionnels de la bourse avaient un tarif vraiment préférentiel au lancement IPO. Et c'est ça, en fait, que Robinhood veut faire, c'est donner accès au grand public, ce qu'on appelle les piggies, accès à...
Les retail à investors, ces prix-là, en fait. Jérôme, retail investors.
Voilà, retail investors, oui, si tu veux.
Et comme on le dit dans la chatroom, du coup, on pourra participer à l'IPO de Deliveroo. C'est parfait. Ou de Clubhouse, quand elle arrivera.
Deliveroo, ça a eu lieu. Hein, et d'ailleurs, ils sont...
C'est vrai, ils sont un petit peu ramassés. Ouais. C'est vrai. Et le dernier sujet, c'est l'intelligence artificielle et l'armée. Eh bien, aujourd'hui, ils sont en train de tester virtuellement des combats d'avions de chasse menés par intelligence artificielle. Alors, c'est entièrement virtuel. C'est des trucs qui sont... complètement dans l'ordinateur, donc il n'y a pas de vraie machine qui contrôle un vrai avion, mais ça devrait être l'étape suivante, avec des avions spécifiques qu'ils vont concevoir pour. Je ne sais pas très bien comment prendre cette information. C'était des combats un petit peu complexes, je crois, avec un contre deux, ou peut-être même deux contre deux. Et donc, il y avait évidemment des choses hyper complexes à gérer, la position des avions, la capacité des destructrices des missiles, etc. Je ne sais pas si c'est genre, bah c'est bien parce que comme ça, on ne va plus envoyer les gens dans les avions pour se faire tuer, ou genre si on va jusqu'à « Ah, mais la guerre, c'est pas bien », et une vision peut-être un petit peu, je ne vais pas dire naïve, mais un peu pleine d'espoir que la guerre, c'est vraiment pas bien et qu'il faudrait qu'il n'y ait plus la guerre nulle part. Ou alors, est-ce que du coup, ça veut dire que ceux qui ont accès à ce genre de technologie vont pouvoir envoyer des drones qui seront plus efficaces, mais les autres seront quand même, seront quand même dans des positions plus difficiles. Je ne sais pas très bien quoi en penser, donc je vous livre simplement le fait que, bah voilà, on a des débuts d'intelligence artificielle qui contrôle des avions de chasse. Et vous en faites ce que vous voulez.
Okay. Il y a que... Ah, pardon.
Non, mais vas-y. Si quelqu'un veut reprendre cette news que j'ai lâchée, n'hésitez pas.
Hein. Je trouve ça intéressant parce que moi, ça m'a fait... En fait, pour bien comprendre ce type de news... En fait, c'est quoi la guerre ? Pourquoi on fait la guerre ? Et en fait, c'est ça. À partir du moment où des intelligences artificielles vont s'affronter, est-ce que la guerre, c'est simplement imposer sa volonté à quelqu'un d'autre ? Si deux IA s'affrontent, ça n'a aucune conséquence pour un pays et un autre quand il réfléchit. Donc, ça peut pas marcher in fine. Donc, ça peut être un moyen de faire la guerre, mais ça se terminera jamais par des guerres où juste des machines vont s'affronter. Parce que, à la limite, on arrivera à faire plier, comme dans la guerre froide, économiquement un pays parce qu'il n'aura plus de quoi fabriquer des robots. Mais ça, c'est une guerre extrêmement limitée.
Je comprends, mais le truc, c'est que ça dépend. Si le combat entre deux avions de chasse avec Skynet à l'intérieur, c'est la première étape, peut-être pas Skynet, mais des intelligences artificielles, c'est la première étape avant que tu envoies tes avions sur le territoire de ton ennemi, tout à coup, le combat entre les deux IA, il devient extrêmement important parce que ce qui se passe après, ça a des conséquences réelles, tu vois, c'est pas juste...
C'est juste des moyens de défense, en fait, de défense ou d'attaque, mais après, de toute façon, le but de la guerre, c'est de, comme tu dis, d'imposer la volonté, et pour imposer la volonté, il faut tuer des gens. Quoi.
Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que les conséquences d'un avion, d'un drone de chasse abattu, ça n'a aucune répercussion dans la presse, dans l'émotion des gens. Mmh. Aujourd'hui, les presses, ça se joue aussi avec la presse. La guerre, ça se joue avec la presse. Donc, c'est des moyens militaires qui vont être utilisés, c'est évident, mais ce n'est pas ça qui fera gagner des guerres, en fait.
Ouais. Écoutez, on en saura tous un petit peu plus. Je vais quand même mentionner un tout petit truc pour conclure le sujet. Saviez-vous que nous sommes dans les périodes les moins violentes de l'histoire, avec le moins de guerres et le moins de morts par guerre ? Même si on entend parler des guerres qu'il y a encore, évidemment, et qu'il faut essayer de diminuer autant que possible à l'avenir et continuer à faire des efforts, on en entend tellement parler qu'on a l'impression qu'il y a la guerre partout et tout le temps. Il y a de moins en moins de guerres depuis des années et des décennies, et de moins en moins de morts par conflit armé. Donc, je voulais juste le mentionner pour le cas où c'est certains...
J'ai vu un article qui expliquait ça il n'y a pas longtemps, là, sur le fait que la guerre, c'est quelque chose qui n'est pas populaire, en fait. Que les humains n'aiment pas faire la guerre. Personne ne veut faire la guerre, en fait. Mmh. Et du coup, pour faire de la guerre, il faut qu'il y ait une raison. Et souvent, les raisons sont basées sur des mensonges ou des menaces un peu irréelles, etc. Et en fait, les guerres dans lesquelles les pays s'engagent la plupart du temps, c'est sur un gros tas de conneries, en fait. Alors que, parce que les gens, les citoyens, en tout cas, ne veulent pas faire la guerre. Et c'est peut-être, en fait, je mets ça en corrélation avec ton histoire où tu dis peut-être qu'avant les guerres, c'était parce qu'il y avait un roi qui était vexé et ils disaient on va aller faire la guerre. Maintenant, avec la démocratie, avec la pression, même avec les réseaux et compagnie, tout ce que tu veux, c'est peut-être moins populaire. Enfin, faut y aller plus fort pour que ça devienne populaire d'aller faire la guerre.
Écoute. J'irais même jusqu'à dire, et là on se transforme tous en sociologue, en politologue, en géopolitologue du dimanche, donc vous nous excuserez nos analyses à deux francs, mais moi ce que je dirais aussi c'est que c'est quand même plus facile d'aller faire la guerre quand t'as rien à perdre, et ces dernières décennies, le niveau de vie dans le monde a énormément augmenté pour tout un tas de raisons, mais dans tous les pays du monde et dans tous les domaines du monde, le niveau de vie a énormément augmenté. Alors, pas tous comme dans les chanceux pays occidentaux que nous sommes, où on a des niveaux de vie assez presque indécents pour certains, dans lesquels je m'inclus, hein, je pense. Mais il y a quand même des niveaux de vie qui ont augmenté à peu près partout. Et l'interdépendance économique joue aussi, évidemment. Mais le fait que les gens ont plus à perdre, peut-être que ça joue aussi. J'en sais rien, mais c'est un moyen, en gros, vous avez bien compris si vous écoutez l'émission régulièrement, c'est un moyen pour moi de doucement rappeler le fait qu'il faut lire Factfulness, un livre absolument essentiel de Hans Rosling sur l'état du monde réel tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il a évolué ces dernières décennies.
Ouais. Et là où je te rejoins, puisqu'on est dans de la philo de comptoir, hein, c'est que c'est vrai qu'il faut se méfier du « c'était mieux avant ». Parce que c'est une pensée, c'est une réponse simple à des problèmes complexes et qui est rarement vraie, en fait, quand tu regardes vraiment les faits.
Non mais ouais. J'irais même plus loin. C'était mieux avant, c'est juste jamais vrai. Bon, ok, peut-être pas jamais. Mais 99% du temps et dans 99% des domaines, c'est carrément pas vrai du tout. Pour personne.
Tout à fait.
Donc, c'était mieux avant, il faut vraiment arrêter. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être mieux demain ou qu'il n'y a pas des problèmes aujourd'hui. Et ça, c'est un autre piège intellectuel dans lequel on peut tomber. Ce n'est pas du tout le cas. Ça, évidemment qu'il y a des problèmes aujourd'hui et qu'il faut, et des problèmes très, très sérieux qu'il faut résoudre. Mais c'était mieux avant, vraiment, j'aimerais bien savoir quand c'était mieux. Il faut qu'on me le dise spécifiquement quand on me dit ça. Parce que...
Méfiez-vous des gens qui vous vendent les hier qui chantent.
Très très joliment dit, Jérôme, j'aime beaucoup. Mais il faudrait trouver un terme un petit peu plus poétique que hier.
Parce que ouais, mais justement, comme ça écorche l'oreille, tu te dis, ah, il y a quelque chose.
Alors, plusieurs news matérielles intéressantes. D'une part, il semblerait que Google soit effectivement en train de travailler sur ses propres processeurs, nom de code Whitechapel, pour faire des téléphones Pixel. Il y en aurait deux, fabriqués en partenariat avec Samsung. Donc, ils arriveraient bientôt. Il y a également Casio qui lance ses premières montres sous Wear OS, des G-Shock sous Wear OS, qui vont évidemment parler à nos amis qui étaient adolescents pendant les années 80. Les G-Shock, ça nous rappellera quelque chose. Et puis Xiaomi qui investit 10 milliards de dollars dans les 10 prochaines années pour fabriquer des véhicules électriques. Ils faisaient déjà évidemment des téléphones et des trottinettes, ce genre de choses. Maintenant, ils vont faire des voitures électriques. Et puis, à côté de ça, il y a eu des annonces de téléphones pliants, le Mi Mix Fold de Xiaomi, et ils ont une montre également, si je ne m'abuse, enfin, un bracelet connecté. OnePlus a annoncé une montre et son OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Bref, il y a plein de téléphones du côté d'Android. Et... comment dire ? Bon, ça fait donc un certain nombre d'informations. Est-ce que vous avez des trucs dans tout ça qui vous inspirent, que ce soit le processeur Google ou la G-Shock sous Wear OS ou les voitures Xiaomi ?
Bon, les voitures Xiaomi, moi, ça m'amuse. Je trouve ça assez cool parce que moi, j'ai l'aspirateur robot Xiaomi. Donc, du coup, j'imagine un truc qui marche pareil, tu vois. Et je me dis que le truc se gère bien, donc pourquoi pas, hein, la voiture Xiaomi, ça peut être sympa.
C'est marrant, ça, à mon avis, ça pointe surtout du doigt l'immensité de ces conglomérats chinois, qui d'ailleurs, entre parenthèses, je ne les ai pas mis dans les notes de l'émission, sont de plus en plus préoccupés par l'œil du parti qui est rivé sur eux. Et il y a eu un certain nombre d'événements qui font qu'on peut se dire que ça risque de ralentir les choses. Ils ont essayé de construire des usines de fabrication de puces. Il y en a encore une qui s'est plantée, qui n'a pas réussi à décoller ces dernières semaines. Il y a plusieurs sociétés
Il y a le mec d'Alibaba qui avait disparu aussi.
Oui, bah lui, il va bien, mais c'est... Bon. Bref, on pourrait parler de Ponyma, mais
bizarre, quoi.
En plus de Jack Ma, il y a eu un problème avec quelqu'un d'autre, avec Ponyma, qui est pas lié, mais bref. Mais il y a aussi des sociétés qui devaient faire leur entrée en bourse ces derniers, si je retrouve la news, bon, peu importe, mais ces dernières semaines qui ont annulé leur entrée en bourse, justement parce qu'ils sont un petit peu inquiets par ce qui se passe avec le gouvernement chinois qui est de plus en plus, qui regarde de plus en plus près ces sociétés de la tech. Bref, c'est intéressant à noter. Voilà, ben, on a 60... Vas-y, Jérôme.
Ouais, non, mais il y a une chose intéressante parce qu'on voit souvent, on pense à la Chine et l'industrie tech chinoise comme ils sont tous ensemble, ils se serrent les coudes et il y a le gouvernement derrière, vision caricaturale. Mais ce qu'on sous-estime, c'est effectivement ces grands conglomérats chinois qui sont maintenant devenus des entreprises mondiales, qui ont des employés à travers le monde et pas que des employés entre guillemets chinois, sont certainement aussi en train de créer un changement culturel et un rapport à l'État en Chine qui fait très peur au parti. C'est-à-dire que le parti craint maintenant ces grandes entreprises chinoises parce que ça leur fait perdre leur hégémonie de pensée en Chine. Donc, on a peut-être les prémices de quelque chose. Moi, je pense qu'il va y avoir des grands, grands bouleversements en Chine. Il y a des choses qui se mettent en place, mais on verra.
Des choses qui se mettent en place en Chine, on verra effectivement. Oui. Tout à fait. Combien d'argent vous dépensez sur dans vos apps mobiles, dites-moi. Je vais peut-être poser la question à Jérôme, qui, je suis sûr, dépense beaucoup d'argent.
Plus grand chose depuis que je fais plus upload. Je regardais parce que... Alors, je dépense moins, mais quand je dépense, c'est des plus grosses sommes et c'est des abonnements à l'année. C'est-à-dire, de plus en plus, je paye des services qui ont des apps, mais ça fait bien longtemps que je n'ai pas acheté une app, je paye le prix et j'ai accès à tous les services, quoi. Je crois que la dernière, c'était il y a 2 mois et ça m'a coûté 10 euros.
Ah, quand même.
Ouais, je me suis abonné à pas mal de services, ouais.
Ah ah! D'accord, intéressant. Donc, et tu sais combien d'argent tu dépenses sur ton téléphone chaque année au final ou pas ?
Sur les services, avec les services inclus ?
On va dire...
Au niveau pro, au niveau des services, on arrive à peu près à 50 euros par mois pour l'entreprise.
Ah, par mois quand même, oui, mais c'est pour l'entreprise, d'accord. En fait, la raison pour laquelle je te pose la question, c'est qu'aux États-Unis, la moyenne de dépenses par an, c'est 138 dollars. Pour chaque utilisateur sur l'iPhone spécifiquement. C'est pour ça que j'ai posé la question à Jérôme. Je ne sais pas si Corben est sur iPhone ou sur Android en ce moment. Ouais, sur iPhone aussi.
Je regarde à peu près là. Mais moi, c'est des abonnements un peu comme Jérôme, quoi. Je suis à peu près 120 euros par an, quoi.
D'accord. Mais c'est marrant parce que moi, à part les services. En fait, j'essaye de m'abonner quand je peux par le web, donc ça ne passe pas par Apple. Mais je dois avoir. En fait, non, attends. Je me demande, ça doit être 35, peut-être une cinquantaine d'euros. Je pensais que j'étais plus bas. Mais rien que l'app de yoga, ça doit être... Je l'ai chopé à une trentaine d'euros par an. Donc, rien que ça coûte une petite morceau. Mais en fait, je dis ça parce que je dépense jamais d'argent sur mon iPhone. Et j'ai été très surpris que ça soit aussi élevé en moyenne. Et c'est peut-être les États-Unis, c'est particulier, mais ils comptent aussi les services d'abonnement. Mais un truc comme, je sais pas, Disney Plus par exemple, je m'abonne pas sur mon iPhone, je m'abonne sur mon ordinateur. Et je sais pas, donc ça me paraît étrange de dépenser autant, mais vous avez l'air de me dire que c'est pas si étrange.
Moi, je préfère
que ça,
m'abonner via l'iPhone, tu vois.
C'est pas plus chiant à se désabonner ? Ou peut-être que t'as tout en place.
Non, mais tu vas dans les paramètres de l'App Store et tu te désabonnes. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué, quoi.
D'accord.
Mais c'est plus pratique parce que tout est déjà, enfin, t'as déjà ton numéro de CB enregistré. Enfin, t'as rien à faire en fait. Puis c'est se renouvelle tout seul. Et moi, je préfère à la limite, tu vois. Après.
D'accord. Ouais, non, mais c'est peut-être que tu m'as convaincu qu'il faut s'abonner.
Non, moi, ce que j'aime bien, en tout cas chez Apple, c'est effectivement. Quand tu t'abonnes en direct à un service, tu ne sais pas trop ce qu'ils vont faire de tes données. J'ai relativement confiance dans la gestion des données par Apple, relativement. Hein. Mais et effectivement, comme dit Corben, c'est beaucoup plus simple de se désabonner. Et tu as un rappel régulier de combien je dépense, en fait. J'aime bien tout avoir au même endroit, moi. Je sais que ça me coûte plus cher, Mais là, pour le coup, c'est un vrai service que rend Apple avec l'App Store.
Damned, vous m'avez convaincu que je devrais faire ça moi aussi. Merde. Bon,
nous sommes des influenceurs.
Exactement. Vous pourrez du coup vous abonner à Apple Arcade, qui a un petit peu changé son fusil d'épaule en ajoutant des jeux qui ne sont pas exclusifs à l'Apple Arcade et en ajoutant des exclusifs également. Moi, je ne comprends pas pourquoi Apple ne fait pas un Apple Arcade direct tous les trimestres ou régulièrement pour annoncer les nouveaux jeux, parce que je peux vous dire que dans le monde du jeu vidéo, du gaming traditionnel, on pourrait être intéressé par le service, mais on découvre souvent qu'il y avait des jeux qui étaient sur Apple Arcade quand ils arrivent sur console ou sur PC ou ce genre de choses. Ils communiquent très, très mal sur Apple Arcade, oui, je trouve. Et autre information du côté d'Apple, ils ne vont plus imposer une langue, déterminer par défaut une langue à Siri, ou plutôt un genre à Siri. On n'aura plus Siri femme sur la langue anglaise américaine ou Siri français qui sera par défaut un homme. Ils vont vous laisser choisir au début, ce qui est plutôt pas mal, je trouve, parce que ça combat un petit peu plus les biais. Donc, il faudra choisir plutôt que d'avoir déterminé. Évidemment, quand c'est un homme, c'est pas la fin du monde, mais on associe forcément les assistants intelligents virtuels à des femmes, à force d'avoir entendu les femmes, des voix de femmes pour tous ces trucs ou presque. Donc, il était temps qu'on mette plus ça par défaut de cette manière.
La voix de la SNCF. Moi, du coup, mon assistante Siri, c'est elle est québécoise.
Eh bah pareil, j'ai fait la même chose. Délirer.
C'est vrai.
Moi, j'ai mis un monsieur québécois à la place de la femme de Siri. J'ai mis l'accent québécois et un monsieur. Et
mais du coup,
c'est drôle, ça rafraîchit vachement Siri en fait.
Sympa, ouais, ouais.
Mais est-ce que vous devez du coup parler avec l'accent québécois pour que qu'il ou elle vous comprenne ou
Non.
D'accord.
Non, okay. Mais alors c'est tout con, mais ça lui donne une personnalité.
Ouais, ouais. Non, mais c'est
rigolo de lui avoir donné un accent québécois. Et là, d'ailleurs, il y a deux nouvelles voix qui vont sortir
avec iOS Siri, 14.5. Ouais.
Je veux l'accent belge, moi.
C'est intéressant de se dire que... Enfin, parce que quand tu passes Siri dans une autre langue, évidemment, il faut lui parler cette langue pour qu'elle te comprenne. Mais quand c'est juste je sais pas comment on va appeler ça, un dialecte ou un accent, eh ben, t'as pas besoin de parler avec l'accent. Donc, c'est intéressant à noter. Très bien. Et d'ailleurs, je le note dans un coin de la tête.
Patrick, quand tu discutes avec des Québécois, est-ce que tu prends l'accent québécois? Parce tu sais, c'est très offensant. Hein.
Moi, direct, je prends l'accent quand je parle avec quelqu'un du Sud.
Moi, quand je vais en Belgique, quand je vais en Belgique, je demande tout une fois, tu vois.
Évidemment.
Je mange que des frites, quoi. Normal.
Bon, bah écoutez, je vous laisse la paternité de ces remarques et je vais conclure l'épisode qui a été extrêmement sympathique. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné pour ce qui est peut-être, j'espère pour ma femme, le dernier épisode avant l'arrivée de ma fille. Ne vous inquiétez pas, on aura des épisodes de remplacement, enfin des remplaçants qui vont venir combler le vide qui sera laissé par mon absence pendant mon congé paternité. Et il y aura également, j'ai un petit épisode spécial qui a été préenregistré aussi, donc il y aura du rendez-vous tech, ne vous inquiétez pas pour ça. Et si vous en voulez plus, d'ailleurs, il y a un épisode spécial qu'on a publié la semaine dernière avec Fabrice Croiseau et Asher, que vous connaissez si vous le suivez sur YouTube, pour parler de blockchain, crypto-monnaie, NFT, etc. et faire un petit peu le point sur tout ça. C'est l'épisode de la semaine dernière. Allez y jeter un coup d'oreille, je pense que ça peut vous intéresser, même si le sujet spécifiquement ne vous intrigue pas. On fait un point et on explique où on en est. Je pense que c'est assez intéressant. Donc, c'est la fin de l'épisode. Jérôme et Corben, pouvez-vous nous dire où on peut vous retrouver sur Internet? Jérôme, je te donne la primeur puisque tu es notre aîné. Il y a moyen de dire que tu es vieux un peu.
Ouais, ouais, j'ai compris. Mais c'est bien dit, ça va, ça passe. Et déjà, merci de ton invitation, Patrick. Vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Nowtech, sur le Twitch Nowtech QG. Et d'ailleurs, on lance une nouvelle émission, Patrick. Il faut que tu l'écoutes. Nous avons lancé le Twitch Achat, c'est le téléachat.
Ça fait quelques jours quand même.
Voilà. Et c'est le mercredi à 12h30 et j'ai l'honneur d'être Pierre Belmar au canard. Et Guillaume fait Maryse et nous faisons un téléachat sur Twitch. C'est assez drôle.
Formidable. Très, très bien. C'est un petit peu la formule magique parce que c'est rigolo. Tu parles de Product Dem et j'imagine que là, l'affiliation Amazon, ça s'envole en flèche.
T'as tout compris. T'as tout compris. Il n'y a que le pognon qui nous intéresse, c'est clair.
Non, mais moi, je trouve que c'est le win-win-win parce que c'est exactement le je suis sûr que les gens qui regardent se marrent comme des fous à vous voir faire le téléachat.
Oui.
Vous marrez.
Disons qu'on joue le jeu à fond parce que c'est vrai que quelque part, faire du YouTube sur des produits, c'est une forme de téléachat. Là, on la revendique et on la joue pleinement parce que le téléachat, c'est rigolo aussi. Quoi.
Bien voilà. Sûr, ouais. C'est, écoute, je regarderai puis, ça
Twitch,
en faisant...
Twitch achat, c'est trop mignon, le Twitch achat.
Très bien. Corben, où es-tu sur Internet ?
Eh bien, moi, sur corben.info, hein, le site. Et puis, sur Twitch aussi, donc le lundi, le mardi et le jeudi de 9h à midi. Et puis, Webosor, pour ceux qui ne connaissent pas encore, Webosor avec Remouk de Dans ton chat ou... On parle un peu de nostalgie, de trucs d'avant, et on met ça en parallèle avec les nouvelles choses. Et ça, c'est le jeudi à partir de 12h30. Voilà.
Mais est-ce que tu dis que c'était mieux avant ? C'est ça qu'on veut savoir suite à cet épisode.
Non, moi, je ne suis pas un défenseur du « c'était mieux avant ». Moi, je suis
très bien.
C'était mieux avant, c'est de la merde pour moi. Donc,
très bien.
Non, par contre, il y a beaucoup de nostalgie, tu vois. C'est on se souvient avec nostalgie que Telsoft, c'était quand même c'était sympa, etc. On a des bons souvenirs, tu vois, mais on ne rejette pas les nouvelles choses.
Très bien. Écoute, c'est parfait. J'aime beaucoup cet esprit. C'est Webosor. Parfait. Merci Corben. Merci Jérôme. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez nous retrouver également en podcast si vous nous écoutez sur Twitch ou sur Twitch si vous nous écoutez en podcast. Vous avez les liens vers tout ça sur notepatrick.com. Et évidemment, vous pouvez aussi soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Si vous voulez payer les couches de mon deuxième enfant, qui arrive très bientôt, si vous voulez m'aider à...
C'est beaucoup moins sexy, quand même.
On disait pendant le rendez-vous jeu la semaine dernière, il faudrait changer les niveaux de soutien, genre niveau couche, niveau biberon, niveau... Peut-être que je vais faire ça pendant... Oui, je confirme, les couches vides. Hein. M'envoyez pas des couches pleines, c'est bon.
Ça peut se vendre en NFT, hein, tu le sais. Hein.
Oui, bien sûr. Mais vous m'envoyez des couches vides. Après, on verra ce qu'on fera avec les couches pleines. On en rediscutera.
On appellera ça des couches au chocolat ou des couches chocolatines, comme vous voulez.
Écoute, on fera un vote sur Patreon pour ça. Patreon.com/RDVTech. Et ça va être tout pour cet épisode. Si vous êtes justement patriote, vous avez l'after show qui arrive juste après, donc ne quittez pas, on va parler avec la communauté de petits trucs sympathiques, et si vous êtes sur Twitch, on pourra passer ce petit moment ensemble également. Pour tous les autres, je vous fais de gros bisous, je vous donne rendez-vous je sais pas quand, peut-être la semaine prochaine, et avec ma femme sera bien bien mécontente si je suis là la semaine prochaine, et puis sinon je risque d'être absent pendant quelques semaines en fonction de la manière dont ça se passe, mais dans tous les cas, vous savez que je reviendrai toujours plus fort, toujours plus, je dirais presque beau, mais je dirais toujours plus tech, voilà, on va dire ça comme
toujours
ça.
Toujours plus fatigué surtout.
Toujours plus fatigué, exactement. Je vous fais des grosses bises et à très très vite.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.